VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Bénin, important dispositif de sécurité ce jeudi aux abords du Parlement béninois à Porto Novo pour l'installation des 83 députés élus lors d'un scrutin controversé dont l'opposition avait été exclue faute d'avoir rempli les conditions requises. Une absence qui s'est traduite par un taux d'abstention record de 73% aux législatives, ayant conduit à des manifestations, surtout à Cotonou, dont le bilan a été d'au moins 4 morts. Les députés sont tous issus des deux partis proches du président Patrice Talon, le Bloc républicain et l'Union progressiste, seule formation autorisée à participer au scrutin. Dans un bref message au Parlement, le doyen d'âge et président de la séance, Walis Zoumarou, a félicité ses pairs pour leur élection. Pour sa part, l'ancien ministre Jean-Michel Abimbola, élu député sur la liste du Bloc républicain, a affirmé que la démocratie béninoise se renforce malgré les remous politiques. Côté opposition, dénonciation de ce que les opposants béninois appellent l'intimidation et l'assignation à résidence de l'ancien président Yayi Boni de Cotonou. Les explications de notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
L'opposition pointe du doigt le gouvernement dans la détérioration du climat politique. Éric Rondeté dénonce l'isolement de l'ancien chef de l'État Yayi Boni, qui selon lui serait privé de toute liberté.
Depuis une dizaine de jours, il est soumis à une torture morale en permanence, un peu comme pour contribuer à le détraquer moralement. Il lui est difficile, il lui est impossible ou refusé de recevoir son médecin, il lui est refusé de recevoir la visite de ses amis, de ses camarades de lutte, de ses collaborateurs. Ce sont là des exagérations, de la provocation, de la torture qui ne peut pas continuer.
Les partis de l'opposition appellent à un dialogue inclusif pour le retour à l'apaisement. C'est le cas des forces coréennes pour le développement du Bénin, du professeur Soumanou Toleba, qui voit de mauvais œil les fractions nord-sud.
Notre parti ne souhaite pas qu'on soit divisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. On demande au nom du parti que le président de la République, M. Talon, puisse voir dans quelle mesure il puisse appeler l'ensemble de la classe politique nationale à une table de négociation,
de façon que les échanges inclusifs puissent nous permettre de parler plus ou moins de la même voix pour qu'on puisse aller de l'avant.
Candide Azanayi, ancien ministre de la Défense du gouvernement de Patrice Talon, aujourd'hui membre de l'opposition, n'est pas de cet avis.
Je ne suis dans aucune compromission que nous compare la Constitution. C'est faire échec à l'autorité illégitime. La résistance ne doit s'arrêter que lorsque Patrice Talon échoue. C'est tout.
Patrice Talon, jeudi soir, s'adressera à ses citoyens, une sortie médiatique très attendue, surtout après les différentes médiations menées ou un retour au calme. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, en Côte d'Ivoire, des affrontements entre populations Dioula et Baoulé ont fait des dizaines de blessés, dont 6 membres des forces de sécurité à Béoumi, dans le centre du pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les affrontements ont été provoqués par une vieille querelle entre les chauffeurs de taxi brousse d'ethnie Dioula et les conducteurs de taxi moto de l'ethnie Baoulé. D'après Innocent Kofi, agriculteur Baoulé à Béoumi, je cite, une altercation entre un chauffeur de taxi brousse et un conducteur de moto-taxi à la gare des taxis brousse a ravivé la tension avant de dégénérer en bataille rangée. En plus des blessés, plusieurs maisons et véhicules ont été incendiés. La gendarmerie a dû intervenir en faisant usage de gaz lacrymogène pour séparer les deux camps. Les affrontements intercommunautaires, parfois meurtriers, sont fréquents en Côte d'Ivoire qui compte plusieurs dizaines d'ethnies et une importante communauté étrangère. Ces heurts sont souvent liés à la propriété foncière mais aussi au transport.
Au Niger, 28 soldats gouvernementaux ont été tués mardi près de la frontière du Mali dans la région de Tillabéri. Près du village de Tongo-Tongo, où 4 soldats américains et 5 militaires nigériens étaient tombés dans une embuscade en 2017. Plus de détails avec Anne Albertson.
Selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense, lu à la radio mercredi soir, l'attaque par des terroristes lourdement armés a eu lieu dans la zone nord de Mangaïsé. 17 soldats ont été tués, 6 blessés, 11 portés disparus et 2 véhicules calcinés. Dans la soirée, une source sécuritaire a confirmé à l'AFP que les corps sans vie des 11 soldats portés disparus ont été retrouvés, ce qui porte le bilan à 28 morts. Des renforts ont été déployés dans le secteur pour poursuivre et neutraliser les assaillants qui se sont exfiltrés vers le nord, c'est-à-dire la frontière malienne.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan, les chefs du mouvement de contestation ont qualifié ce jeudi de regrettable la décision des militaires de suspendre pendant 72 heures les négociations sur la transition politique. Les contestataires soulignent leur détermination de maintenir le sit-in de Khartoum devant le quartier général de l'armée. Pour sa part, le Conseil militaire au pouvoir depuis la destitution le 11 avril du président Omar al-Bashir estime cette pause dans les négociations nécessaires pour mettre fin à la dégradation de la situation sécuritaire dans la capitale où les manifestants bloquent de nombreuses routes. Face aux plaintes de l'armée, plusieurs barrages routiers ont été levés et la circulation a repris aujourd'hui sur un grand nombre d'artères autour du sit-in de Khartoum. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Nous avons décidé de suspendre les discussions pendant 72 heures pour préparer le terrain à la conclusion d'un accord sur la transition, a déclaré le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, dans un discours à la nation retransmis par la télévision publique tôt ce matin. Le dirigeant de ce conseil qui avait évincé le 11 avril, le président Omar el-Béchir, n'a pas totalement fermé la porte aux négociations sur un transfert du pouvoir aux civils, mais il a mis la pression sur les chefs de la contestation pour qu'ils contrôlent mieux leurs troupes. Le conseil militaire et les dirigeants de l'ALC étaient censés plancher mercredi soir sur la composition d'un conseil souverain, institution clé de la période de transition fixée à 3 ans après avoir progresser sur la formation d'une assemblée législative.
En République démocratique du Congo, Heather Merritt, sous-secrétaire d'État adjointe américaine, est en visite du 15 au 16 mai à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga dans le sud-est du pays. Madame Merritt a eu des consultations avec le gouverneur de la province, le responsable de la police et des leaders communautaires afin de mieux comprendre les priorités sécuritaires de la seconde grande métropole du pays, nous dit notre correspondant sur place, Naoval Mabila. La sous-secrétaire d'État adjointe a aussi rencontré le procureur général, le président de la cour d'appel et des greffiers pour discuter du renforcement du système judiciaire. Heather Merritt a aussi réitéré le soutien des États-Unis à l'engagement du président Félix Tshisekedi à lutter contre la corruption et à améliorer l'état de droit en RDC. La lutte contre les violences en ligne, maintenant, les géants d'Internet ont signé mercredi à Paris un engagement à combattre ce fléau, à savoir l'appel de Christchurch contre la violence en ligne. Cette initiative intervient 2 mois après la diffusion en direct sur Facebook de l'attaque contre des mosquées en Nouvelle-Zélande. Plusieurs pays soutiennent le plan, mais les États-Unis ont refusé de signer cet appel. Les précisions de John Lyndon.
Par cet appel, initié par le président français Emmanuel Macron et la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, les plateformes Internet se sont engagées à lutter contre les contenus en ligne terroristes ou extrémistes violents. C'est 2 mois après l'attaque qui avait fait 51 morts dans 2 mosquées de Christchurch, diffusée en direct sur Internet grâce au service Facebook Live. Facebook, justement, avec ses filiales WhatsApp et Instagram, Google et sa filiale YouTube, plus Amazon, Microsoft, Twitter ou encore Dailymotion font partie des signataires de l'appel. Outre la France et la Nouvelle-Zélande, cet appel a été adopté par une 20aine de pays. Les États-Unis ont dit ne pas être dans une position de se joindre, mais soutiennent les objectifs généraux de l'appel de Christchurch. Washington dit également encourager les groupes technologiques à appliquer leurs règles d'utilisation interdisant l'usage de leurs plateformes à des fins terroristes.
Pour terminer, le président américain Donald Trump doit annoncer aujourd'hui son plan sur l'immigration. Dans un briefing à la presse, un haut responsable américain a expliqué que ce plan renforcera la sécurité à la frontière et créera un système fondé sur le mérite, en réitérant que c'est une question de compétitivité. Seront privilégiées les personnes hautement qualifiées et avec un haut degré d'éducation ayant des perspectives d'emploi ou d'investissement, plutôt que les candidats ayant des liens familiaux avec des citoyens américains ou des besoins humanitaires. Le président Trump compte maintenir à 1 100 000 par an le nombre de cartes vertes assurant la résidence permanente aux États-Unis. Mais la loterie annuelle pour les visas de résidence sera complètement éliminée au terme de ce plan. Plus d'infos sur notre site internet. VOA Afrique. www.voaafrique.com.